Ce n'est pas toujours facile d'être chrétien, même lorsqu'il n'y a pas de persécution, même dans nos pays, même chez nous en France. Si vous parlez de votre avec vos collègues, avec des amis, et vous abordez votre foi, il peut y avoir quand même une petite gêne. Si vous leur dites que vous croyez qu'il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ, ils se mettront peut-être en colère. Si vous leur dites que la sexualité est réservée au cadre du mariage, vous les ferez doucement rigoler. Et si vous leur dites que Dieu condamne l'homosexualité, ils ne riront plus du tout. Et vous pouvez même vous retrouver devant un tribunal. Non, ce n'est pas toujours facile d'être chrétien, même dans nos pays, et de rester fidèle à la parole de Dieu. Et face à cette difficulté, qui, selon toute vraisemblance, ira en grandissant, lorsqu'on regarde l'évolution de notre société, on constate qu'elle diverge par rapport à la direction que nous indique l'Écriture. Elle s'éloigne de ses valeurs, et tout semble indiquer que cet écart va en grandissant. Et face à cette difficulté que nous pouvons éprouver de vivre dans cette société, de dire notre foi, il y a deux tentations qui nous tendent les bras. La première tentation, c'est celle que j'appelle la tentation du hérisson. Dans un monde hostile, qui ne veut pas entendre ce que nous avons à lui dire, nous pouvons être tentés de nous refermer, de minimiser la surface de contact avec ce monde hostile, à rester entre nous, à nous replier, à mettre nos enfants dans des écoles chrétiennes, voire même les garder chez nous, pour pas qu'ils restent en contact avec ce méchant monde. Voilà la tentation du hérisson. Il y a une deuxième tentation diamétralement opposée, c'est celle que j'appelle la tentation, comment dire, du caméléon. Le caméléon qui s'adapte à son contexte. Dans un monde qui est hostile à ce que nous avons à lui dire, on peut être tenté à se dire, finalement, est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu d'eau dans notre vin? Est-ce qu'on ne peut pas limer un peu les angles? Enlever ce qui gêne? Essayer d'avoir un discours qui plaît pour intéresser le monde autour de nous à ce que nous sommes, à devenir comme le monde autour de nous. J'ai lu avec intérêt une enquête sociologique qui a été faite il y a 2-3 ans aux États-Unis, où on a comparé les chrétiens évangéliques avec des non-chrétiens, du point de vue sociologique. Donc on a examiné, par exemple, leur comportement de consommateurs, aussi des choses comme leurs opinions politiques ou leur taux de divorce. Bref, un regard un peu de l'extérieur sur deux groupes que seuls distinguaient leur comportement religieux. Et le résultat de cette enquête était très surprenant, pour moi en tout cas. On n'a trouvé aucune différence significative entre les deux groupes. Voilà la tentation, je dirais, du caméléon. Être comme tout le monde. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut choisir l'une des deux? Est-ce qu'il faut nous refermer, rester entre nous? Est-ce qu'il faut s'adapter au monde? Quelle est la conduite à adopter dans un monde hostile? Et c'est là que l'histoire de Daniel est très intéressante pour nous et riche en enseignements. Nous avons déjà lu le texte tout à l'heure, le premier chapitre de Daniel. Daniel fait vraiment face à cette situation-là. Il se retrouve jeté dans un monde qui lui est profondément hostile, qui soulève d'énormes problèmes. Et il va essayer de rester fidèle à Dieu, à sa façon. Il va développer une stratégie très intéressante et qui se trouvera, en fin de compte, approuvée par Dieu. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse ce matin sur ce que Daniel et ses amis ont vécu. Le tout commence avec une catastrophe. Une catastrophe dont nous avons du mal à sentir l'étendue. Et c'est en fait ce que nous dit le premier verset de ce texte qui, vous l'avez entendu, dans la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Et il y a un empire qui monte et qui monte et qui devient de plus en plus important dans au Moyen-Orient. C'est l'empire néo-babylonien. Il y a un jeune roi très entreprenant, très doué, très stratège, un certain Nebuchadnezzar II. Et il va conduire cet empire à devenir vraiment l'empire qui compte. Et en 605 avant Jésus-Christ, il va infliger une défaite importante à l'autre empire du coin, à savoir l'Égypte. Et il va poursuivre avec ses soldats les Égyptiens qui s'enfuient. Cette bataille a eu à Carchemish, qui est à la frontière de ce qui est aujourd'hui la Syrie et la Turquie. Il va donc poursuivre ses soldats vers le sud. Et il va se trouver devant les portes de Jérusalem. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un siège et que les habitants de Jérusalem se rendent, le roi Jéhoiakim se rend, et Nebuchadnezzar va partir avec un certain nombre de jeunes gens qui partent en quelque sorte en otage en Babylonie. Et puis, Nebuchadnezzar va aussi emporter des ustensiles du temple qu'il va placer dans la maison de son Dieu, dans le pays de Shinéar. Le Seigneur livre à Jéhoiakim entre ses mains, verset 2, ainsi qu'une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Il les fit venir au pays de Shinéar, dans la maison de ses dieux. Il fit venir les ustensiles dans la maison des trésors de ses dieux. Et Daniel et ses trois amis se trouvent au milieu de ce groupe qui se trouve déporté en Babylonie. Des jeunes gens qui sont arrachés à leur famille, qui sont emportés dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas la langue, un pays qui est profondément idolâtre, qui vénère des divinités qu'ils ne connaissent pas et qui leur sont interdits. C'est la catastrophe. Je ne sais pas si peut-être quelques-uns des personnes qui sont dans cette salle ont des ancêtres qui ont vécu quelque chose de comparable. Quand le Troisième Reich a envahi la France, il y a des gens qui sont partis en Allemagne pour y travailler. Et ils ont sans doute pu vivre quelque chose de semblable. Mais ici, en fait, la dimension... Enfin, c'est encore plus grave parce qu'il y a une dimension spirituelle à tout ça. C'est que dans la conception de ces gens-là, lorsqu'un empire l'emportait sur l'autre, c'était non seulement une victoire militaire, mais c'était une victoire des divinités du vainqueur sur les divinités des vaincus. Et on pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Dieu d'Israël n'est plus à la hauteur? Est-ce qu'il n'est plus en mesure de protéger son peuple? Est-ce qu'il faut se tourner plutôt vers les dieux des Babyloniens qui l'ont emporté? Vous voyez, Nebuchadnezzar, il prend les affaires du temple et il les apporte à ses divinités. C'est pour marquer leur supériorité. C'est eux les vainqueurs. Et même si peut-être un Israélite fidèle pouvait croire que non, Dieu était toujours aux manettes, il contrôlait tout, c'était sa volonté que ça se passe comme ça. Et nous le savons que c'était sa volonté. Mais pour eux, c'était moins clair. Même quelqu'un comme ça, il pouvait se dire, mais à ce moment-là, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce qu'il a mis un trait sur l'histoire, sur l'aventure d'Israël? Vous voyez, c'est assez intéressant que dans ce texte, il nous est dit que Nebuchadnezzar emmène ces choses au pays de Shinéar. Au pays de Shinéar, c'est en fait le vieux nom de Babylone. C'est le nom de Babylone qui est utilisé dans Genèse chapitre 11, qui nous raconte la tour de Babel. Et c'est très intéressant de voir ça parce que quelque part, on a l'impression que Dieu rembobine l'histoire. Euh, Peu de temps après cette venue de Nebuchadnezzar, 8 ans pour être précis, Jéhoiakim, le roi de Juda, s'est de nouveau rebellé contre Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est revenu avec ses soldats et il a emporté cette fois-ci une quantité très importante de personnes. Mais comme les gens n'apprennent rien de l'histoire, encore 10 ans plus tard, c'est le roi Sédécias de Juda qui s'est encore révolté contre Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, qui a de la suite dans l'unité, revient, et cette fois-ci, il en a marre. Il va raser Jérusalem, il va détruire le temple, il va laisser un champ de ruines. Plus de temple, plus de pays, tout le monde est déporté, plus de peuple, tout est dispersé. C'est comme si on revenait en arrière dans l'histoire du salut. Qu'est-ce que Dieu avait fait dans l'histoire du salut ? Il s'était, en Abraham, il s'était choisi quelqu'un, un peuple. Ensuite, il leur avait donné une terre. Et ensuite, il avait pris lui-même résidence dans cette terre. Et maintenant, tout ça est parti en fumée. Et on peut se dire, mais est-ce que c'est la fin ? Est-ce que tout est fini ? C'est sans doute des questions qui ont dû assaillir ces jeunes gens qui étaient en train de partir à Babylone. Mais nous allons voir que ces gens-là vont s'accrocher. Et c'est à travers Daniel et ses amis que Dieu va montrer à son peuple qu'il ne les a pas abandonnés. Et s'il les traite durement, ce n'est pas pour les détruire, mais pour partir sur de nouvelles bases. Alors, qu'est-ce qui arrive à Daniel et à ses 3 amis ? Qu'est-ce qu'ils vont vivre ? En fait, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est la stratégie de Nebuchadnezzar. On a parfois l'impression, quand on parle de ces vieux empires, que c'était des brutes épaisses et qu'ils n'avaient que la guerre et le sang à la tête. Mais quand on y réfléchit un peu, on voit que Nebuchadnezzar était loin d'être un idiot. Et il avait une stratégie très intéressante, contrairement à l'empire qu'il précédait, dont nous avons parlé la dernière fois, parlant de Jonas, les Assyriens, qui étaient vraiment des gens extrêmement cruels et violents. Les Babyloniens étaient beaucoup plus raffinés. Et l'idée de Nebuchadnezzar était la suivante. Quand il prenait le contrôle d'un pays, il prenait la crème de la crème, les meilleurs d'entre les jeunes gens de ce pays, il les amenait à Babylone. Et il les mettait dans une espèce d'académie, d'université, une sorte d'ENA avant l'heure, hein, une école d'administration où étaient formés les hauts fonctionnaires du pays, de l'Empire. Et ça, c'était drôlement intelligent parce que, comme ça, l'Empire profitait des meilleurs éléments qui existaient. Nebuchadnezzar avait dans ses troupes rapprochées des gens qui parlaient toutes les langues de l'Empire, qui connaissaient la culture, qui avaient un carnet d'adresses. Et puis, et ça c'est peut-être pas l'avantage le moindre, les meilleurs éléments du pays étaient emmenés à Babylone, alors que c'était eux qui pouvaient éventuellement constituer le noyau d'une révolte. C'était eux les plus doués, donc s'il avait laissé ces gens au pays, c'était un risque à prendre. Mais en les amenant à Babylone, c'était tout bénef pour lui. Donc ces jeunes gens-là vont être trouvés embarqués dans ce programme de formation en vue de la haute administration. On peut se dire, mais c'est formidable, c'est super, quelle chance. C'est vrai qu'il y a un bel avenir qui s'ouvre devant eux. Mais il y a quand même beaucoup de contraintes qui vont avec cette voie qui s'ouvre devant eux, beaucoup de contraintes qui pouvaient faire reculer des Israélites fidèles qui c'était sans doute. Et on peut notamment, il y a 4 contraintes. Quelles sont exactement ces contraintes-là ? La première, c'est, je dirais, la chose la plus banale à première vue, c'est qu'il fallait apprendre la langue et la culture du pays. C'est-à-dire, pendant 3 ans, ils allaient être formés à la langue qu'on pratiquait en Babylonie, qui était différente de la leur. Eux, ils parlaient hébreu. Et cette langue babylonienne, elle comportait aussi une toute autre écriture. C'était compliqué à apprendre, sans doute, mais bon, on savait aussi que ces gens-là étaient brillants. Donc la langue en qu'est-elle, sans doute, ne leur posait pas le plus gros problème. Mais pour apprendre cette langue, il fallait lire la littérature babylonienne. Et si vous avez une idée de ce que c'est cette littérature, vous savez que c'est truffé d'idolâtrie. C'est des récits, des cosmogonies, c'est des histoires des divinités. Il n'y a que ça. Et donc pendant 3 ans, ils allaient apprendre par cœur toutes ces choses-là, détestables aux yeux d'un Israélite. Et non seulement ça, ils allaient être formés à tout ce que cette civilisation avait proposé. Et comme toute civilisation, il y avait de très belles choses en Babylonie. Il y avait les mathématiques et l'astronomie. Il y avait la médecine, sans doute, et bien d'autres sciences encore. Mais il y avait aussi d'autres choses. Et comme toutes les civilisations humaines, il y avait aussi des choses atroces là-dedans. Il y avait, les Chaldéens étaient réputés pour la divination, pour l'occultisme, pour l'astrologie. Et sans aucun doute, ces jeunes gens-là allaient être formés à fond dans ces disciplines-là. Donc il y a quand même des choses qui pouvaient faire hésiter un jeune Israélite. Deuxième contrainte, participation à la table du roi. Il nous est clairement dit dans le texte que Nebuchadnezzar leur a imposé le régime du palais. Alors à première vue, super, c'était sans doute la meilleure nourriture qu'on pouvait espérer dans le pays. Mais encore une fois, pour un Israélite, problématique. Parce que, évidemment, les lois du Lévitique, on ne les respectait pas à Babylone. On y mangeait du porc, on y mangeait du cheval, des bêtes impures pour un Israélite. Et puis, on ne préparait pas ces viandes à la manière, on ne les saignait probablement pas. Enfin bref, pour quelqu'un qui voulait respecter les lois du Lévitique, ce n'était pas possible. Ensuite, troisième contrainte, un engagement au service du roi. C'était le but du but. Ils allaient devenir de la haute fonction babylonienne. C'est formidable. Mais en même temps, pensez-y ce que ça veut dire pour eux. C'est-à-dire devenir serviteur de l'État qui a détruit leur pays, de l'État qui s'apprête à détruire le temple, et devenir quelque sorte un élément important, un pilier de cet État-là. C'est quand même pas évident. Et puis, quatrième contrainte, on leur donne de nouveaux noms. Alors Daniel et ses collègues, ils ont tous des noms qui évoquent le Dieu d'Israël. Daniel, le Dieu suprême, tu es mon juge. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a comme Michaël, qui est comme Dieu, elle. Vous avez Azaria et Hanania, Dieu fait grâce, Yah, comme Yahweh. Donc c'est des noms qui évoquent le Dieu d'Israël. Et ils vont recevoir des noms qui n'ont rien à voir et qui ont tous plus ou moins une connotation païenne. Belteshazzar, ce n'est pas exactement ce que ça veut dire, mais ça fait soit allusion au Dieu Bel, soit à l'épouse du Dieu Marduk. Et aussi Abednego, c'est le Dieu Nebu, qui est aussi dans le nom Nebuchadnezzar. Donc ils portent maintenant des noms de divinités païennes. On peut imaginer que pour un Israélite fidèle, il n'y avait pas là le comble du bonheur. Donc nous avons ces 4 jeunes gens qui se trouvent devant cette carrière qui s'ouvre devant eux et puis ces énormes difficultés qui sont liées à ça. Ils se trouvent dans un monde hostile et ils vont maintenant devoir réagir. Et c'est très intéressant de voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont chercher la confrontation avec ce système? Ils pourraient essayer de fuir, prendre le maquis, devenir résistant. Ce n'est pas ce qu'ils choisissent de faire. Est-ce qu'ils vont céder à la tentation du hérisson? Refermer, peut-être essayer de se faire virer de cette académie, faire les idiots par la hauteur, rater les études, essayer de sortir par là. Non, ce n'est pas ce qu'ils font, tout au contraire. Nous allons voir qu'ils vont même remporter haut la main cette académie. Ils vont être les meilleurs des meilleurs. Alors, est-ce qu'ils choisissent l'assimilation, se fondre dans le décor? Est-ce qu'ils vont adopter tout ce qu'on leur propose? Et c'est là que c'est intéressant, parce que ce n'est pas clairement non dans l'absolu. Hein? Si vous regardez ce qu'ils font, des quatre choses, des quatre contraintes que je vous ai citées, ils vont en accepter trois. Souvent, quand on parle de Daniel, on va tout de suite se focaliser sur ce qu'il refuse de faire. Et c'est vrai que le texte insiste aussi le plus sur ça. Mais soyez quand même attentifs à tout ce qu'ils acceptent de faire. Hein? Parce que ce n'est absolument pas tranché qu'ils disent « Non, on ne veut rien avoir à faire avec ça. On rompt avec tout le système. » Non, non. C'est beaucoup plus sublime qu'ils vont faire. Ils vont dire « Ces trois choses-là, on peut les accepter, mais cette quatrième, non. » Donc, l'apprentissage de la langue et de la culture, ils vont s'y adonner à cœur joie. Et comme je vous ai dit, ils vont même sortir major de leur promo. La participation à la table du roi, ça va être le point de rupture. On va le voir. L'engagement au service du roi, là aussi, ils vont aller dans ce sens-là et même y exercer des fonctions très importantes. Et ils ont raison de le faire. Et si vous connaissez le prophète Jérémie, plus tard, Jérémie va écrire aux déportés à Babylone et va leur dire « Investissez-vous, faites du bien à cette ville, travaillez pour le bien de Babylone. » Ça n'allait pas de soi. Et Jérémie lui-même s'est fait traiter de collabo. Mais le projet de Dieu passait par cette étape-là. Et donc, ils avaient raison de s'inscrire dans cette fonction-là. Et puis, l'adoption de nouveaux noms, alors ça ne semble pas leur avoir posé plus de problèmes que ça. Mais on a déjà vu ça avec Joseph en Égypte. On ne s'attache pas trop à ce genre de formalité, je dirais. Donc, des quatre contraintes que je vous ai citées, ils en acceptent trois. Mais il y en a une qui ne passe pas. C'est la contrainte concernant la nourriture du roi. Alors, on nous dit, et ça c'est le verset clé, « Daniel prit la décision de ne pas se souiller avec la nourriture du roi et avec le vin qu'il buvait, et il demande au chef des hauts fonctionnaires de l'autoriser à ne pas se souiller. » Vous pouvez dire, mais pourquoi ça? Il avale tellement de couleuvres, pourquoi la nourriture? Qu'est-ce qui est si grave avec ça? Vu tout le reste qu'il accepte. Alors il y a des gens qui ont pensé, évidemment, et c'est la première chose à laquelle on pense, qui ont pensé au Lévitique. Daniel veut chercher à rester fidèle à son Dieu, il veut respecter les commandements du Lévitique. Et c'est pour ça qu'il dit, non, la nourriture, ça passe pas. Probablement, ce n'est pas la bonne explication. Probablement pas, parce que Daniel refuse aussi le vin. Or, il n'y avait aucun souci avec le vin du point de vue de la pureté, contrairement aux viandes qu'on leur proposait. Probablement, c'est autre chose, parce qu'il refuse en bloc cette histoire de nourriture. D'autres ont pensé que c'était peut-être parce que le vin et les viandes étaient sacrifiés aux idoles. C'était probablement le cas, effectivement, mais on sait aussi que les Babyloniens sacrifiaient aussi les légumes aux idoles. Donc même avec son régime végétarien, il ne pouvait pas échapper à ce problème-là. Probablement, l'explication est ailleurs. Probablement, l'explication se trouve dans le fait que, dans la conception des Babyloniens et des peuples environ, accepter la nourriture de quelqu'un, c'est déclarer sa loyauté avec cette personne. C'est considérer qu'on doit allégeance à cette personne jusqu'au bout. Et il y a un peu plus tard dans le livre de Daniel, on parle de gens qui ont fomenté un complot contre le roi tout en mangeant sa nourriture. Donc c'est aggravant comme circonstance. C'est qu'ils devaient allégeance à ce roi-là, mais ils ont quand même ourdi un complot. Donc ici, probablement, ceux qui pose problème à Daniel, c'est de se déclarer totalement loyal avec ce régime-là. Il veut bien s'insérer dans ce tissu, il veut bien exercer une fonction importante qui soutient ce régime-là même, mais sa loyauté à lui, sa loyauté absolue à lui, elle va vers Dieu et pas envers Nebuchadnezzar. Et tant que les deux peuvent se superposer, il sera fidèle à Nebuchadnezzar, mais jusqu'à un certain point. Et il ne pourra pas rester avec Nebuchadnezzar, quoi qu'il arrive. Donc, c'est très intéressant de voir que Daniel et ses amis, en fin de compte, ils acceptent certaines choses. Ils avalent quelques couleurs, c'était sans doute pas toujours facile, mais ils fixent une limite. C'est-à-dire, ils disent, on est prêt à faire un certain nombre de compromis, des compromissions peut-être, aux yeux de certains. Mais on se fixe une limite qu'on ne va pas franchir. Ce sera ça notre conduite. Et ce sera ça notre position qu'on va défendre. Et il décide donc de ne pas se souiller avec cette nourriture-là. Et ils vont voir le chef des surveillants qui lui est embarrassé. Il a peur. Il a peur parce qu'il risque gros dans l'affaire. Mais ils savent le prendre. Ils lui proposent une sorte d'épreuve. Et là, on voit que Daniel et ses amis, en fait, font confiance à Dieu. Ils font ce choix qui est le leur. Ils se fixent cette limite qui est la leur, qui est discutable. Peut-être auraient-ils pu choisir autre chose, mais ils ont choisi ça. Et ils disent, on s'en tiendra à ça, et pour le reste, on fait confiance à Dieu. Ça aurait pu mal se passer, bien sûr. Mais ils disent, si Dieu est avec nous, si Dieu honore ceux qui l'honorent, comme il dit dans 2 Samuel, si Dieu est vraiment un Dieu qui honore ceux qui l'honorent, il va faire en sorte qu'on s'en sortira. Et c'est ce qui se passe. Et par la suite, on voit que Dieu honore effectivement leur engagement, à trois niveaux même. Le premier niveau, c'est que l'épreuve des 10 jours qu'on leur impose, ils la réussissent haut la main. À l'issue de ces 10 jours, ils ont meilleure mine que leurs collègues qui ont mangé la superbe nourriture du roi, alors qu'eux, ils sont contentés de légumes et d'eau. Mais Dieu honore leur engagement et il fait en sorte que c'est eux qui ont meilleure mine. Par la suite, à l'issue des 3 ans, Dieu leur donne cette sagesse qui fait qu'ils sortent majeurs de leur promo, comme je vous ai dit. Hein? Et ils impressionnent par leur maîtrise des sujets. Et tous les devins et tous ces autres gens autour de qui circulent autour, hein, ils leur sont clairement inférieurs. Et Nebuchadnezzar va les adopter à son service personnel. Ils vont être de très hauts fonctionnaires. Et puis, et c'est très intéressant, Dieu bénit ces gens dans la durée parce qu'au dernier verset du chapitre, il nous est dit « Ainsi en était-il pour Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus ». Alors, ça a l'air de rien, mais Cyrus, ce n'est pas le roi qui suit Nebuchadnezzar. Il y a eu plusieurs rois entre Nebuchadnezzar et Cyrus. Cyrus, c'est le premier empereur perse, c'est-à-dire c'est un nouvel empire qui remplace Babylone. Et Daniel, il est resté à ce niveau-là pendant toute la période de l'Empire babylonien et jusqu'au début de l'Empire perse, c'est-à-dire pendant à peu près 70 ans, dans un poste aussi exposé que le sien, c'est-à-dire dans la proximité immédiate du roi. Daniel va tenir bon pendant 70 ans. Il sera encore là quand le nouvel empire surgit sur la scène. Donc, Dieu a réellement et clairement béni ces gens-là. Il a respecté leur engagement. Leur approche est validée, pourrait-on dire. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir Daniel et sa stratégie parce que c'est un peu surprenant. Ce n'est pas la stratégie du hérisson que je vous l'ai dit. Ils sont pleinement partie de cette société, et même ils sont à un niveau très important. Ils s'engagent là-dedans, malgré toutes les difficultés que ça pouvait poser. Mais ils ne se compromettent pas non plus complètement. C'est-à-dire, ils fixent une limite à ne pas franchir. Ils disent, on peut aller jusqu'à un certain point, on peut accepter certaines choses, mais on se fixe une limite. Et Dieu a béni cette approche-là. Alors, je vous pose la question, où fixez-vous vos limites? La solution que Daniel et ses amis ont choisie, elle ne coule pas de source. On se demande pourquoi ils ont fait ça et pas autre chose. Pourquoi c'est ça qui les a choqués et pas autre chose? Pourquoi ils ont fixé leurs limites là? On ne sait pas exactement. Ça, c'était leur choix. C'est eux qui savaient pourquoi. Et Dieu les a sans doute aidés. Il leur a donné la sagesse, du discernement pour voir ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et je ne peux pas vous donner une recette toute faite, comment vous devez faire. Mais si vous voulez rester fidèle à Dieu dans un monde qui est hostile, ne choisissez pas la stratégie du hérisson. Dieu veut que vous soyez dans la société. Dieu veut atteindre la société. Ne choisissez pas non plus l'assimilation. Dieu ne veut pas que vous soyez comme tout le monde. Dieu vous demande de vous fixer vos limites, jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne pouvez plus aller. Et je dirais ça surtout aux jeunes qui sont ici. Si Daniel a pu être si merveilleusement utile dans l'histoire qui est la sienne et qui s'étale sur 70 ans, c'est qu'il a appris très jeune à dire non. Il a su discerner jusqu'où il pouvait aller et il s'en est tenu à ça. Et ça lui a donné une longue vie richement bénie au service de Dieu. Donc, vous qui êtes jeune, vous avez cette chance de pouvoir dire non à certaines choses dès votre jeune âge. Vous pouvez vous engager avec Dieu en fixant certaines limites. Je ne sais pas ce que c'est qui vous éloigne de Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être trop d'attention aux études? Est-ce que ça peut être trop de télé ou trop d'Internet? Est-ce que c'est des mauvaises compagnies? Je ne sais pas. C'est vous qui savez, probablement. Mais réfléchissez sur ce qui vous éloigne de Dieu, ce qui est problématique dans votre vie, et fixez-vous des limites là-dessus. Mais je le dis aussi aux plus vieux ici. Vous aussi, vous devez vous fixer des limites. Qu'est-ce qui vous éloigne de Dieu, concrètement? Ça peut être de belles choses en soi. Ça peut être la famille. Il y a des gens qui se font phagocyter par la famille. Ça peut être le travail, sans doute très fréquent, qu'on se laisse complètement absorber par le travail et qu'on s'éloigne de Dieu. Il faut fixer des limites. Et fixez-les là où vous savez que c'est critique pour vous. J'ai entendu un pasteur m'a raconté une histoire. Il avait demandé à un chef d'entreprise chrétien, un homme qui avait un succès considérable dans son métier, il a dit, qu'est-ce que nous pouvons dire à des gens dans votre situation avec les contraintes qui sont les leurs? Et les difficultés, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on leur dise? Qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur qui risque d'être avalé par son travail, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et cet homme lui a dit, dites-leur, Daniel s'est fixé une limite. Et il racontait qu'avec lui et sa femme, ils avaient fait un pacte, tous les deux très pris en fait, et ils avaient fixé cette limite, ils avaient dit, le mardi soir, c'est sacré. Le mardi soir, on va au groupe de quartier, à la réunion de prière, et quoi qu'il arrive, on ira. Et si mon travail me demande de déborder sur le mardi soir et d'abandonner mon mardi soir, je quitte mon travail. Voyez, c'est une limite que personne d'autre n'aurait pu trouver pour eux. Et ça ne fait de sens que pour eux. Mais pour eux, c'était ça la limite. Ils se sont tenus à ça. Ils ont resté fidèles à ça. Et il dit, si je n'ai pas chaviré dans ma foi, c'est que je m'étais fixé mon mardi. Il a su se fixer une limite. Deux petites remarques, après j'arrête. La première remarque, c'est que quand vous fixez vos limites, ne le faites pas seul. Daniel et ses amis, ils étaient quatre. Hein, sans doute ont-ils prié ensemble, ils ont étudié les Écritures ensemble, ils ont cherché à discerner ensemble jusqu'où ils pouvaient aller et jusqu'où ils ne pouvaient plus aller. C'est de la sagesse. Ne le faites pas tout seul. Cherchez-vous des chrétiens à qui vous faites confiance, avec qui vous... ça marche bien, et réfléchissez ensemble. Et la deuxième remarque, quand vous fixez vos limites et quand vous les pratiquez, faites-le avec grâce. C'est ce qu'on voit Daniel faire. Daniel, quand il décide qu'il ne va pas se souiller avec cette nourriture, je suis sûr qu'il était totalement ferme là-dessus et il n'aurait pas transigé. Mais il ne va pas voir les surveillants et dit « Voilà ce que j'ai décidé, je ne boufferai pas de votre nourriture, un point c'est tout !» Non, il y va avec beaucoup de grâce. Il demande l'autorisation, il dit « Écoutez, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de satisfaire nos deux ? Je connais votre problème, je sais que c'est délicat pour vous, mais je ne peux pas. Essayons de trouver ensemble un deal qui nous satisfait tous les deux. » Ça, c'est de la sagesse. Ce n'est pas cassant. Il n'impose pas. Il est ferme dans ce qu'il veut. Et quand on connaît la suite de l'histoire, on sait que ces jeunes gens-là, ils seraient allés jusqu'à la mort pour leur conviction. Mais il n'y va pas en cassant. Il y va avec les formes, avec la grâce, avec la douceur, malgré sa fermeté. Tactique. Du hérisson, tactique du caméléon, il me semble que Daniel nous montre une autre voie. Il fait preuve de souplesse, d'une souplesse étonnante à certains égards, mais il se fixe des limites à ne pas franchir, avec sagesse, avec l'aide des autres et avec grâce. Mais il se fixe des limites et il s'y tient. Et il compte sur Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Faisons de même. Amen.